embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite, les amis.
Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll, le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Cette fois-ci, nous parlons du numéro 21 qui a pour thème « Déjouer la crise d'ado, c'est possible ». C'est un fait communément admis, la crise d'ado serait un passage obligé et sans issue pour les parents contraints de serrer les dents et espérer qu'elle passe vite. Faut-il forcément s'avouer vaincu ? Il existe une alternative à la résignation. De nombreux professionnels affirment qu'il est possible de désamorcer la crise d'ado dès l'enfance, à condition de mettre en place certaines habitudes révélées dans ce numéro. Je vous souhaite une belle écoute. Salut JD.
Salut Julien, salut tout le monde.
Tu vas bien ?
Ça va très très bien, merci.
Bon, magnifique. Et donc, on va parler de ce prochain magazine qui va sortir. On est déjà au numéro 21. Ça fait 3 ans maintenant que le numéro existe. On a fait des petits calculs. Il y a un peu plus de 106 000 exemplaires qui sont partis aux quatre coins du monde, ce qui est dingue, je trouve, comme chiffre.
C'est énorme.
Ouais. Et on a toujours la niaque. On est toujours là. On a plein de choses à dire. Il y a plein de thèmes qui nous passionnent. Et aujourd'hui, c'est autour de la crise d'ado. Donc, je vais te laisser en parler, comme d'habitude. On va dérouler ce qu'on appelle le chemin de fer du magazine.
Ouais, ça marche. Déjà, pourquoi on a choisi ce titre ? Déjouer la crise d'ado, c'est possible ? Parce que beaucoup de personnes n'en sont pas convaincues, en fait. On est parti du constat qu'il y a une certaine résignation autour de la crise d'ado. Ce serait effectivement un passage obligé, quelque chose d'incontournable qu'il faut traverser en serrant les dents, en tant que parent, en espérant que ce soit le moins compliqué possible. Et le problème de la résignation ou de la fatalité, c'est que souvent, ça nous empêche ou ça nous ment sur le fait qu'on a des moyens d'action, en fait. On traverse ça de façon passive en se disant, y a rien à faire, donc on baisse les bras et on attend que ça passe. Et nous, ce qu'on veut montrer, et ce que plein de professionnels, d'éducateurs, psychologues disent, c'est que oui, il y a vraiment des façons d'agir pour au mieux éviter cette crise, au pire, en réduire énormément, on va dire, les effets et les symptômes, entre guillemets. Et ça, c'est carrément une bonne nouvelle, en fait. C'est une très bonne nouvelle pour les parents. Il y a des façons vraiment d'éviter ce passage-là sur lequel tout le monde se résigne, alors que c'est dommage. Il y a vraiment moyen d'agir.
Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que je crois que c'est la première fois, dis-moi si je me trompe, où on s'est entouré un peu plus de psychologues pour justement pour
avoir des sujets. Ouais. Okay. Complètement, ouais. Complètement. Et du coup, bien sûr, c'est une question qui se traite sous plein d'aspects et on va les balayer maintenant, si tu veux bien.
Allez.
On commence bien sûr par, on va dire, le nerf de la guerre, là où tout commence, c'est au niveau du cerveau, en fait, le cerveau de l'ado. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'ado. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui se posent la question. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment? En fait, il se passe plein de choses. L'adolescence, c'est vraiment, une évidence de le dire, c'est un âge vraiment de grands changements. Alors, il y a des changements qui se voient, qui sont très visibles, niveau hormonal, niveau pubertaire, etc. Mais il y a beaucoup de changements qui ont lieu aussi dans le cerveau et qui, par définition, ne se voient pas forcément. Et donc, c'est Elisabeth Grimaud qui est vraiment une spécialiste de la question, qui va vraiment nous détailler les changements, justement, qui s'opèrent à l'intérieur du cerveau et qui explique, justement, pourquoi tous ces changements, pourquoi des besoins différents émergent, comment il faut adapter sa parentalité, sa posture d'adulte par rapport à ça, dans le respect de ces changements. Mais qui dit respect, dit pas forcément résignation. C'est là où c'est intéressant.
Oui, puis alors aussi, j'ai envie de dire, se rappeler quand même qu'on a tous été un ado et qu'a priori, on a tous eu notre crise d'ado, hein, à un moment ou à un autre.
Oui, c'est ça. Moi, sincèrement, quand je me rappelle de la mienne, oui, j'ai eu des petites phases un peu bizarroïdes, on va dire, mais je crois que même si j'en parle à mes parents, ils ne considèrent pas ça comme une crise au sens vraiment grave, tu vois. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a des façons dont les parents agissent, soit pendant l'adolescence, mais surtout avant, parce qu'en fait, on va le voir dans ce magazine, il y a beaucoup de choses à mettre en place en prévention. Alors, si les parents qui nous écoutent se disent « c'est trop tard, moi, je suis en plein dedans », on va aussi parler justement de solutions quand les conflits peuvent arriver, quand les incompréhensions ou les problèmes de communication émergent et qu'on se dit « mince, mais la communication est rompue ou elle est brouillée, je ne sais plus comment retrouver le contact ». Il y aura plein de conseils aussi, on va en parler un peu plus en détail.
Yes.
Donc on continue, on va parler justement de quelque chose qui est très, on va dire, parallèle à tous ces changements au niveau neuropsychologique, c'est la puberté. C'est la puberté, c'est tout ce qui est hormones, gestion des émotions. C'est un grand chamboulement, alors plus ou moins, selon les individus, peut-être selon les garçons et les filles, on va en parler aussi. Mais c'est la psychologue Monica Allegranzi qui va nous en parler, de comprendre et décoder, décrypter un peu justement tout ce qui se joue à ce niveau-là, au niveau puberté et hormones, et en quoi ça peut venir influer sur les comportements. Ça aussi, c'est intéressant de savoir en tant que parent. Parce que tu as raison de le dire, on a tous été ados, mais on n'a pas tous la même capacité à se rappeler exactement de ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Et c'est bien des fois d'avoir des choses qui nous rafraîchissent, surtout avec aussi un regard et on va dire, des lunettes qui ont vachement évolué en 20 ans. Si on considère qu'une génération, c'est 20 ans à peu près, et qu'on était tous ados il y a plus ou moins 20 ans, ben en 20 ans, les neurosciences, la recherche a énormément avancé sur la compréhension de ce qu'on traverse intérieurement. Et c'est bien aussi d'avoir cette update, en fait.
Ouais, complètement. Alors moi, tu sais, quand on parle d'adolescence, moi, ce dont je me rappelle, alors moi, j'ai eu cette chance, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas eu de bouton, par exemple. Tu sais, je pense à l'acné, notamment.
Ok, ouais.
Ça, c'est une période où c'est très compliqué, en fait, tu sais, pour les ados, quoi. Tu te caches un peu derrière tes boutons. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce qui m'a marqué? Ah oui, c'était un peu l'idée, tu sais, de se créer un réseau, de se faire un peu une place, tu vois, d'être invité dans les bonnes soirées, de se passer, tu vois. Et ça aussi, je trouve que c'est très challengeant de se créer ce microcosme, en fait, quand t'es à l'école, et notamment dans cette période d'adolescence, quoi. Je sais pas si t'as vécu ça, toi aussi, ouais, c'est pareil.
C'est clair. Ouais, moi, j'avais ma petite bande de potes, on a traversé un peu les modes, les jeux de rôle, tout ça, machin, mais ouais. C'était une bande de potes assez, assez régulière. On s'est suivi un peu d'une classe à l'autre. Okay. Donc, j'ai pas eu trop cette pression de groupe, on va dire, de pas appartenir à un groupe, parce qu'il existait déjà un peu naturellement. Mais c'est vrai, on en parlera un peu plus loin, que l'existence par le groupe, par les pairs, etc., c'est quelque chose qui est à la fois important, mais qui peut se retourner aussi contre l'ado, parce qu'il peut y avoir aussi une pression de groupe à avoir certains comportements, certaines attitudes qui vont au-delà de l'identité, ou qui même mettent l'identité un peu de l'ado à l'envers, et qui amène certains dilemmes et des grands écarts à faire, en fait, intérieurs, quoi.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, on va aborder, alors assez succinctement, plus sous forme de rappel, mais parce que c'est très important avec nos amis de Ensemble pour la petite enfance, cette question de l'attachement. L'attachement qui se joue vraiment à la prime enfance, parce que les spécialistes le voient, il arrive que des problèmes, quand il y a vraiment des problèmes importants à l'adolescence, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a peut-être été fragile au moment de l'attachement. Donc ça, on va en parler avec eux, qui sont vraiment spécialistes de la petite enfance, pour aborder un peu plus loin une autre notion, je vais pas spoiler tout de suite, mais une autre notion qui vient en écho à cette notion d'attachement. Vous comprendrez tout à l'heure.
Mystère, moi.
C'est ça, t'as vu ça. Continue.
Ouais.
Allez, super. Il y a une association qu'on aime beaucoup qui s'appelle l'association Coca. Alors, pas comme la célèbre boisson américaine, hein, Q-U-O-K-K-A, qui est très active auprès des ados, de leurs parents, de l'orientation, tout ça, qui connaît très bien ce public ado et qui va traiter d'un aspect qui est très important à cet âge-là, c'est la pression ou les pressions avec un S. Les pressions, on va dire, des parents, parce que parfois ça peut être une pression, l'école, l'orientation, les relations, la pression aussi de popularité, tu en parlais tout à l'heure, hein, d'être dans les bonnes soirées, dans les bons groupes, les bonnes modes, etc. L'adolescence est un âge qui est vraiment à l'intersection de plein de pressions, en fait. Et qu'est-ce que ça produit sur l'ado? Comment le gérer? Comment, en tant que parent, en tant qu'adulte, comment accompagner les ados dans le fait de gérer ces différentes pressions qui arrivent un peu de tous les côtés? C'est essentiel et on va en parler dans ce numéro également.
Je me rappelle notamment en parlant de pression qu'il y avait aussi cette idée, tu sais, d'avoir les dernières marques à la mode, tu sais, d'avoir à l'époque, tu vois, tu te rappelles, c'est genre les pumps à l'époque ou les Nike.
Ah, oui.
Tu vois, ah, là, la pression qu'il y avait, c'était dingue, quoi.
Ah, mais complètement. Puis quand tu arrives dans la cour de récré, tout le monde se scanne, tu sais, ok, est-ce que tu as le dernier Adidas, les dernières baskets? Et c'est vrai que, ouais, on va tous voir les parents, on va dire, ah, ben, je peux avoir ça et tout. Et c'est pas simple parce que, ouais, c'est pas simple.
C'est pas mal, bien. Et en plus, à l'époque, en tout cas pour nous, ça coûtait une blinde quoi, de s'acheter des.
Ah,
des
ben, carrément.
C'était pas accessible dans tout le monde. Quoi. Ouais.
C'est ça, c'est ça. Après, on va parler avec une autre psychologue, Maëlle Niquel-Courtin, de quelque chose aussi qui est très important. Alors, je sais pas si toi, tu te rappelles, est-ce que tu étais un ado influençable?
Je pense pas.
Ok.
Ouais, je pense pas. Ouais. Ça dépend ce que tu entends par influençable. Donne un exemple pour voir.
Ben, le fait de, quand tu vois une mode, ou que ce soit vestimentaire, comportement, d'expression, tout ça, tu as tout de suite envie d'aller dedans, de te conformer à cette influence parce que tu sens que tu vas exister davantage à travers elle.
Ah, ok. Ah non, moi, je suis plutôt un rebelle. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui ai créé plein de trucs.
D'accord, d'accord. Bon, ben, tu vois, ben, ça t'a peut-être gardé de beaucoup de choses. Moi, j'étais assez influençable. Okay. Et c'est une question qu'on va se poser avec cette psychologue, c'est de dire entre les copains, les séries, les réseaux sociaux, les influenceurs, maintenant, c'est carrément un statut à part entière, pourquoi beaucoup d'ados quand même, certains ne le sont pas, hein, tu en es un exemple, mais beaucoup d'ados quand même sont influençables. Pourquoi? D'où ça vient? Quel est ce besoin? Est-ce qu'on peut y répondre autrement? Est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a, on va dire, des failles d'un point de vue identitaire ou un manque de confiance en soi et comment travailler à ce niveau-là? On va aborder toutes ces questions-là autour du côté influençable des ados avec cette psychologue parce que pour beaucoup de parents aussi, c'est un vrai défi quand les copains disent certaines choses. Ils reviennent, les ados reviennent à la maison, ils disent « Ouais, j'ai entendu ça, on m'a dit ça dans la cour et tout. Ben, » les parents, s'ils vont dire peut-être l'opposé ou alors quelque chose de différent, l'enfant va préférer accorder sa confiance dans tout ce qu'il entend dans la cour et des copains qu'à ses parents. Donc là, il y a aussi une question de concurrence des influences entre l'influence parentale et l'influence des copains. Ben, comment on gère ça, quoi?
Oui, c'est sûr. Et puis encore plus, j'en veux dire, à l'heure des réseaux sociaux, où là, en fait, ça prend un poids, mais considérable, justement, là-dedans. Ouais, ça ne doit pas être évident. Hein.
Non, c'est clair. C'est clair. Ensuite, on va parler de quelque chose. Alors là, ça fait trembler un paquet de parents. C'est les premières fois. Les premières fois, alors que ce soit les amourettes, on va dire les premiers amours, même la sexualité, ça terrorise beaucoup de parents. Et ça peut se comprendre d'une certaine manière parce que il peut se vivre aussi des choses pas agréables à ce moment-là. On veut protéger les enfants et on peut reprocher ça à aucun parent de vouloir protéger ses enfants. Mm-hmm. Et en même temps, on peut pas les garder sous cloche en verre indéfiniment. Donc, comment on gère ces premières fois? C'est que les amourettes et les premières amours comme ça, ça peut déboucher des fois sur d'énormes blessures, des frustrations, beaucoup de peine, des chagrins de cœur, comme on dit. Voilà, quelle est la bonne posture, en fait, en tant qu'adulte, pour pas être intrusif, pour pas être contrôlant, mais à la fois pour être sécurisant, pour poser un cadre à son enfant, à son ado.
C'est clair, ça doit être challengeant. Bah, moi, ce que je vois derrière, c'est la confiance. Évidemment, ouais. que l'ado se sente en confiance et qu'il puisse aborder tous les sujets qui le sautent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avec ma mère. Et je pense que ça. Bon, après, j'imagine que c'est pas forcément évident à mettre en place, mais oui, déjà, la confiance, ça me paraît le maillon, quoi.
Complètement, complètement, ouais, tout à fait. Ensuite, on va parler alors d'un problème là qui, je pense, va faire écho à à mon avis, à peu près 100% des parents, c'est l'addiction au smartphone. Comment faire? Comment gérer ce smartphone qui, à la fois, est un outil aujourd'hui, on va dire, c'est compliqué de s'en passer. Toutes les applis, toutes les choses de la vie courante, je pense même que même pour la vie au lycée, etc., il y a des applis peut-être officielles qui sont sur les téléphones, mais à la fois, c'est là le contact, c'est un peu le nouveau terrain vague, quoi. Avant, on voyait ses potes au terrain vague, au parc d'à côté ou dans la rue. Aujourd'hui, le téléphone, le smartphone, c'est la nouvelle rue, entre guillemets. On se retrouve sur Snapchat, sur Insta, sur WhatsApp, sur des channels, des groupes, etc. Comment trouver le juste milieu là aussi entre, OK, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais à quel moment on peut considérer que c'est trop, que c'est un excès, qu'il y a une addiction? Comment le détecter? Comment arriver à ramener son enfant à un usage raisonné? Comment être exemplaire, nous aussi, en tant que parents? Parce que c'est facile de dire à son enfant, tu fais trop ton téléphone, mais nous, d'être vissé dessus. Tout ça, c'est très challengeant, en fait.
Ben oui, parce que comme tu l'as justement dit, en fait, tout tourne autour de ça maintenant. On est vraiment en train de tendre vers une société purement numérique, et on le voit avec le téléphone. Moi, je suis en train de faire des démarches là pour changer ma carte d'identité. Et bon, ben voilà, en fait, maintenant, on va avoir de plus en plus une carte numérisée sur notre portable. C'est l'objectif. Donc, vraiment, tout est en train de tourner autour de ça. Donc, c'est vrai que faut trouver une voie de plus, la voie du milieu entre oui, la société est en train d'aller vraiment vers du tout numérique, et en même temps, bah, il y a la vie aussi autour de nous. Et de ne pas couper nos adolescents de la vie, quoi, en fait, tout simplement.
Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ouais, parce qu'il y a aussi des usages du téléphone qui vont peut-être donner des indices aux parents sur l'état intérieur de leurs enfants, de leurs ados. Ça peut aussi être une façon de considérer, d'interpréter, en fait, le phénomène. Et puis après, c'est toujours se dire, OK, sur quoi, en tant que parent, je dois lâcher prise? Et par contre, sur quoi je ne peux pas le laisser passer, quoi. Voilà, là, c'est aussi des questions de placer le curseur au bon endroit. D'accord. C'est vraiment pas simple. Et c'est Karine Schritzinger-Deleuze qui va nous en parler. Elle fait des ateliers, elle, spécifiques sur l'addiction au smartphone avec des parents, avec leurs ados. Et donc, elle connaît très bien ce phénomène. Elle y travaille semaine après semaine avec des familles concernées par ça. Et donc, elle est très pertinente sur le sujet. On est très content de la voir.
Oui, complètement. Puis il faut souligner qu'on a fait un magazine aussi dédié aux écrans, parce que ça me fait penser à ça. Il n'y a pas que finalement le smartphone, il y a aussi quand l'ado rentre à la maison, qui se met derrière son ordi et qui joue en réseau aussi avec des jeux, tu vois, avec ses potes. Il y a aussi ça. Et comprendre aussi derrière ça, on en parle très bien dans ce magazine dédié aux écrans, que bah, on a créé des produits qui créent de l'addiction. Donc les réseaux sociaux, ça crée de l'addiction, les jeux vidéo aussi créent de l'addiction. Enfin, il y a plein de mécanismes qui ont été étudiés par tous ces concepteurs. Et donc ça, c'est bien aussi d'être au courant et de savoir comment ça fonctionne.
Complètement, complètement, oui. Exactement. Ensuite, on va parler, alors là, on revient à quelque chose d'assez psy, c'est les risques de transfert parent-ado. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut s'inviter dans l'éducation parentale des choses héritées de sa propre adolescence. Et ça, c'est important quand même de se scanner, on va dire, là-dessus et d'avoir une certaine lucidité et de faire la lumière, en fait, sur des fois des choses qui peuvent peut-être rester un peu dans des angles morts un peu de sa vie intérieure ou dans des zones d'ombre. Et ça demande une introspection, en fait, de se dire, OK, comment j'ai traversé ma propre adolescence? Est-ce que j'en garde des blessures? Est-ce que j'en garde des frustrations? Peut-être même des traumas, malheureusement. Et comment ça s'incruste, en fait, dans ma parentalité? Et ça, on va traverser ça avec un psychologue qui va vraiment nous conduire dans cette introspection nécessaire pour peut-être dépolluer un peu, détoxifier, j'allais dire, sa parentalité de tout ce qu'on a peut-être embarqué de sa propre adolescence.
Oui, puis je trouve que c'est pas que dans la parentalité que ça peut avoir un effet, c'est tout simplement en tant qu'adulte, hein, dans notre vie de tous les jours. On parle très souvent de bombes émotionnelles qui peuvent exploser comme ça du jour au lendemain dans nos vies. Et donc, bien évidemment, oui, c'est un point très, très important de bien se connaître. On parle de connaissance de soi.
Ouais, complètement. Ensuite, on va recevoir notre invité qu'on aime beaucoup, qui est Marie-Jeanne Trouchot, que tu connais bien, Julien.
Oui.
Où on va vraiment poser la question, justement, de cette question de base, en fait, qui est la crise d'ado et de savoir à quel point elle est une fatalité ou pas. C'est de savoir au fond, et ça c'est vraiment le cœur du sujet en fait, le cœur de la question, est-ce que la construction de l'autonomie de l'ado se fait-elle forcément par la rupture et le rejet de ses parents ou de l'adulte en général? C'est le cœur en fait du réacteur, cette question-là. Et elle va y répondre avec toute son expertise sur le sujet, et notamment au travers d'une notion dont elle parle très, très bien, c'est celle du détachement sécure. On a parlé de l'attachement tout à l'heure, qui se joue vraiment dans les premiers jours, les premiers mois de la vie. Et elle parle beaucoup, à un moment donné, au moment de l'adolescence, d'inviter les parents à mettre en œuvre ce qu'elle appelle le détachement sécure. De dire, OK, il y a eu attachement, il faut qu'il y ait à un moment donné un détachement, mais un détachement sécure. Comment on y arrive? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place très concrètement dans la vie de tous les jours? Comment ça s'incarne, en fait? Elle va en parler dans un article très pertinent, comme elle sait le faire.
Oui, c'est clair. Bah oui, je pense que c'est elle, mais en plus, qui a créé le détachement sécure. Hein.
Oui, certainement, tu as raison. Tu as raison. Je sais qu'elle fait des conférences sur le sujet. Enfin, elle est très appréciée dans ce qu'elle amène sur ce sujet-là, qui lui est propre, en effet.
Ouais. Et elle organise aussi des événements annuels. Alors, la dernière fois que j'ai intervenu, c'était avec Boris Cyrulnik, c'était à Cannes. Et vraiment, la thématique est détachement sécure. Donc, c'est voilà, pour ceux qui seraient intéressés d'entendre des conférenciers qui parlent le sujet.
Ouais. Ensuite, alors, sur un ton un petit peu léger, on appelait ça « OK Boomer », on va vous partager 10 astuces pour rester à la page, mais sans jouer aux jeunes. Parce que c'est souvent un peu l'écueil des parents qui veulent rester tellement dans le coup pour dire « moi, je ne suis pas un vieux ringard, je reste à la page », tout ça, qu'on peut tomber facilement dans l'excès et au final, son enfant, son ado nous regarde en disant « attends, quoi tu joues là, c'est quoi ce théâtre ?» Donc, on va essayer de balayer un peu 10 astuces pour trouver le juste milieu entre rester dans le coup, rester à la page, mais sans surjouer, quoi. Et ça promet d'être assez marrant.
Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, ça me semble vraiment important, parce que parfois, on peut peut-être observer, tu sais, autour de nous, qu'il y a un vrai décalage entre les parents et les ados. Et moi, je trouve ça intéressant, tu vois, d'essayer qu'il n'y ait pas trop justement de décalage pour comprendre encore mieux leur univers et peut-être être encore un peu plus proche d'eux. Quoi.
Ouais, c'est ça, ça. On va essayer de trouver le juste milieu entre Skyrock et nostalgie, en fait. Voilà,
voilà, c'est ça.
Ensuite, on va donner la parole à Ludovic Leroux qui va nous parler de confiance en soi. Parce que ce qu'on se rend compte très souvent, et ça les spécialistes le disent, hein, c'est que quand les ados, comment dire, sont trop influençables, trop perméables à l'influence extérieure, à la pression peut-être des pairs, et qu'il y a toujours une envie de se conformer à tel ou tel groupe, telle ou telle tendance, c'est qu'à un moment donné, en soi, plus ou moins, parce qu'il ne s'agit pas de généraliser, mais ça questionne le niveau, le degré de confiance en soi. Et du coup, on trouve intéressant de proposer un article sur comment cultiver cette confiance en soi dès l'enfance. Et Ludovic Leroux, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte ça à travers une expertise autour du nerf vague. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une approche qui est assez rare, en fait, de voir comment on sollicite, on entraîne le nerf vague pour cultiver et développer et faire croître cette confiance en soi. Et donc, il va en parler dans ce numéro et j'ai hâte de le lire.
Oui, ce qui est chouette, c'est que ça s'apprend, effectivement, et Ludovic s'y attelle depuis de nombreuses années. On l'avait invité au congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qu'on faisait à Arcachon. Il est venu donner une conférence où il parlait de ça. C'était une conférence qui a été vraiment très appréciée. Donc oui, son article va être passionnant, c'est clair.
Cool, excellent. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec Alexandre Antonienko, qui est déjà intervenu dans le MAG, hein, qui est de Montpellier aussi, ouais. Et qui, lui, a vraiment une expertise sur tout ce qui est gestion des émotions. Et là, alors gestion des émotions, quand on parle d'adolescence, forcément, ça évoque des choses. Là, on va vraiment centrer le sujet de la question de gestion des émotions au niveau des situations explosives, en fait. Comment on fait quand les portes commencent à claquer, quand on monte dans les tours, comme on dit, et je pense que ça parle à beaucoup de parents. Comment faire? Est-ce que c'est celui qui crie plus fort? Est-ce que le parent doit se dire non, je marque mon territoire, je ne vais pas lâcher, et on alimente la surenchère? Est-ce que c'est vraiment la solution? On a l'intuition que ça ne l'est pas quand je dis ça, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut laisser forcément son ado faire et crier et claquer les portes? On va en parler avec lui parce que c'est vraiment son sujet de prédilection.
Je pense que ça va aider aussi beaucoup d'adultes.
Certainement.
Ah ouais, certainement. Parce qu'il va donner des pistes, tu sais, au niveau justement de la gestion des émotions. Ouais. Et donc, ça ne concerne pas que les ados, parce qu'on peut le voir aussi probablement dans notre quotidien. Parfois, ce n'est pas évident de gérer ses émotions.
C'est vrai, c'est vrai. On va parler un peu plus largement aussi avec une autre association qu'on aime beaucoup qui s'appelle Déclic CNV, qui est, on va dire, experte hein, sur tout ce qui est communication non violente, c'est d'avoir un peu des conseils pratiques pour améliorer la communication entre les parents et les ados. Souvent, quand des parents nous parlent, des parents d'ados nous parlent, c'est ce qui ressort en fait, c'est de dire mais il y a quelque chose qui s'est rompu dans notre communication. Où est le petit enfant qui venait sans filtre et me parler de tout, de sa journée, tout ça? Là, il y a une espèce des fois de mur qui peut se construire. On le voit pas forcément jusqu'au moment donné où ça y est, le mur est là, on l'a pas vu parce que il s'est construit tout doucement. Il y a une espèce de déconnexion qui est très frustrante, surtout pour les parents, je pense. Peut-être pour les ados aussi, d'ailleurs, ce sera intéressant d'en parler. Mais comment, du coup, on cultive et peut-être on adapte aussi sa communication. Et ça, cette association Déclic CNV va nous donner des pistes très pratico-pratiques pour améliorer la communication avec les ados, parce que c'est une étape de la vie où c'est vraiment nécessaire.
Oui, et puis là encore, ce seraient des belles pistes pour les adultes. Ça me fait rebondir sur le fait qu'ils interviennent d'ailleurs au 6e congrès Innovation en éducation qu'on organise là le 2 et 3 novembre à Grenoble. On attend 600 personnes et donc justement une des expertes de Déclic CNV vient donner une conférence.
Génial, bah, c'est super. Alors, on l'avait pas fait depuis un petit moment, on a refait un sondage, on aime beaucoup ça, vous savez, dans le magazine, de vous donner la parole aux abonnés et à tous les gens qui ont envie de s'exprimer sur un sujet. Et là, on a posé la question aux abonnés de savoir, ok, vous avez un ado, si oui, qu'est-ce que vous avez fait avec lui ou elle qui a marché, qui a fonctionné, il y avait une problématique, il y avait peut-être une frustration, quelque chose qui n'allait pas, qui était à l'arrêt, qui était brisé ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui a marché et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et ce qu'on aime faire dans ces sondages, c'est de dire, ok, si ça a marché pour une famille, ben, autant en parler et que ça peut inspirer plein d'autres parents, plein d'autres familles à le tester. Peut-être que ça ne marchera pas dans d'autres familles, mais ça vaut toujours le coup d'essayer les choses, parce que quand ça marche, ben, on est super content en fait. Et on a des dizaines de réponses déjà qui nous sont parvenues, super intéressantes et des fois très originales, très surprenantes, okay. Mais... ça va devenir une grosse boîte à idées en fait, cet article pour piocher et tester plein de choses que d'autres parents ont mis en place et qui a marché pour eux en tout cas.
Oui, d'ailleurs, il faut en profiter aussi pour les remercier, hein, pour remercier à chaque fois tous les lecteurs hein, qui participent à nos sondages, parce qu'on reçoit systématiquement mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, grand merci à vous, hein, lecteurs du magazine, de participer vous aussi à ce mag. Merci.
C'est vrai, complètement. Donc là, on a abordé, alors tu as raison de dire que souvent, ça sert aussi ces articles aux adultes au niveau général, mais on était plutôt, on va dire, dans un chapitre un peu sur la bonne posture parentale, que ce soit gestion de crise, émotion, communication, estime de soi, etc. Là, on entre vers la fin du magazine dans une rubrique qui va peut-être concerner un peu plus les enseignants, avec des, encore une fois, des intervenants de grande qualité, à commencer par Isabelle Peloux, qu'on ne présente plus, qui va vraiment, elle, développer la question de la posture de l'adulte avec ses élèves ados, en fait. Et on ne fait pas court, on n'est pas dans la même posture pédagogique avec des ados qu'avec des enfants. Et elle l'explique très, très bien. Elle va donner plein de clés pratiques pour tous les adultes qui sont, d'une façon ou d'une autre, au niveau professionnel, en situation d'enseigner ou d'éduquer des ados.
Bah oui, Isabelle, pour ceux qui ne le savent pas, elle était directrice des Amanins pendant plus d'une vingtaine d'années. Et puis, c'est devenu un peu la spécialiste justement de la position en fait, de l'enseignant, la posture en fait, de l'enseignant. Et c'est vrai que, ouais, on l'aime beaucoup. Bon, maintenant, elle est à la retraite, elle profite de ses petits-enfants. Mais voilà, quand elle est dispo, elle aime bien participer au MAG.
Ouais, on aime toujours beaucoup quand elle le fait en tout cas. Juste après elle, c'est Juline Anquetin aussi qui va intervenir. Alors, Juline Anquetin, elle a fait un peu le buzz ces derniers mois parce que elle était dans le top 10. Il y a un prix qui est décerné tous les ans au meilleur prof du monde parce qu'il met en œuvre des pédagogies innovantes, originales, il a des résultats incroyables. Et Juline a été, elle est prof de lycée professionnel et elle a été dans le top 10, en fait, de la dernière édition des meilleurs profs du monde. Donc, c'est assez incroyable. Alors, elle n'est pas arrivée première, c'est pas très grave, mais d'arriver dans le top 10, c'est déjà incroyable. Mmh. Elle a développé vraiment une pédagogie sur les classes apprenantes, les classes inversées, inspirées un peu de ces courants-là. Et donc, elle nous parle dans ce numéro de savoir si les ados spécifiquement auraient besoin ou pas d'une pédagogie spécifique, surtout liée à ce qu'on constate aujourd'hui comme problématique, c'est la problématique de l'attention, en fait. L'attention s'est effondrée avec toutes les applis comme TikTok, etc. Aujourd'hui, les élèves ont une capacité d'attention focus, je crois, de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Donc, comment on fait en tant qu'enseignant pour embrasser cette réalité, on va dire, plutôt que de s'en plaindre et adapter sa pédagogie. Elle va y répondre de manière très, très pertinente.
Et là encore, Juline vient donner une conférence aussi au 6e congrès Innovation en éducation à Grenoble, le 2 et 3 novembre. Et elle donnera un atelier aussi, un atelier de 45 minutes. On peut accueillir 130 personnes dans cet atelier. Donc, ça va être très, très sympa.
Excellent, excellent. Ensuite, dernière invitée de ce numéro-là, c'est Anne-Sophie de Oliveira, qui est impliquée dans l'école Living School en région parisienne. Tu me corriges, hein, je ne me trompe pas,
c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais.
D'accord. Et qui, elle, a énormément travaillé sur la question du sens. La question du sens dans les pédagogies, dans la discipline. Et elle, son credo, c'est de dire les ados ont un grand besoin de sens et il faut remettre du sens, en fait, dans les pédagogies. Alors, parfois, ça peut être assez facile, mais selon les apprentissages, on peut se dire, oui, mais comment mettre du sens dans la grammaire? Comment mettre du sens dans des choses, des fois, qui relèvent plutôt du par cœur ou du savoir, on va dire, inerte. Et donc, elle amène elle va amener des réponses très pertinentes, elle aussi, parce que c'est un sujet qu'elle a énormément travaillé. Je crois qu'elle a fait sa thèse sur le sujet. Donc, ouais. Elle connaît ça sur le bout des doigts.
Exactement.
Et puis après, c'est toujours les rubriques qu'on aime bien, qui sont à la fin du magazine, l'instant famille, où on invite les familles à un moment donné à prendre un temps, que ce soit sur le canapé, en balade, tout ça, pour se poser des questions, les parents aux enfants, les enfants aux parents, tout pour un peu balayer, un peu parler de ce sujet sans filtre, sans autocensure. Et souvent, le but, c'est de libérer la parole et peut-être d'aborder des choses qu'on n'a pas toujours le courage d'aborder. Ouais. On va avoir cette rubrique-là, les ressources de Julie, évidemment, où Julie vous propose énormément de ressources, livres, de sites, de formations, de podcasts sur la thématique du magazine, et puis différentes infos pratiques à la fin du mail.
Yes, et puis il faut remercier Julie parce que c'est un travail de titan à chaque fois ce qu'elle fait.
Ouais,
là, je crois qu'il y a encore plus d'une cinquantaine d'outils, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est vraiment colossal. Donc, merci Julie, tu nous écoutes. Mais je sais que tu ne regardes pas trop, que tu ne nous écoutes pas, mais un jour, peut-être que tu t'envoies dessus, on ne sait jamais.
Voilà, voilà.
Yes, c'était cool. Merci JD. Merci pour ce bon déroulement du prochain magazine, donc qui sortira fin juillet, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas.
Mi-juillet plutôt, je pense.
Mi-juillet, ok.
Ouais, mi-juillet.
Ok, super. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle journée. Profite bien.
Ouais, merci Julien, merci tout le monde d'avoir été là et puis à la prochaine.
Ouais, on se dit à très vite. Ciao,
allez,
ciao.
Salut.
Et voilà, les amis, c'était Jean-David Boll, le rédacteur en chef donc du magazine Innovation en éducation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous remontre la page de couverture du prochain magazine, celui dont on a évoqué. Déjouer la crise d'ado, c'est possible. 80 pages de conseils d'experts. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de publicité dans ce magazine. C'est vraiment que du contenu. Pour ceux qui ne le savent pas, le magazine sort tous les 2 mois. On ne le trouve pas en kiosque. Il est uniquement accessible sur notre boutique. Vous tapez boutique innovation en éducation dans un moteur de recherche. Ou sur le site internet du magazine, hein, vous tapez magazine innovation en éducation et vous pourrez vous abonner. Et vous recevrez donc le magazine tous les 2 mois, donc 6 numéros par an. Je vous mettrai les liens en commentaire. Je vais vous laisser avec une petite vidéo qu'on a réalisée, que je vous ai montrée au tout début, si vous étiez là, de la marque Innovation en éducation. Et puis, du coup, nous, on se retrouve ce soir, si vous êtes encore là, ce soir à 21h avec David Tan, Alexandre Antonenko et moi-même, parce qu'on est en train d'organiser un chouette week-end du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, un week-end qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?». C'est un week-end immersif, on va être plus de 140 personnes sur place à vivre comme ça pendant 2 jours très intensifs d'ateliers pour cheminer davantage vers nous et vous apporter plein d'outils pour mieux vous comprendre et passer peut-être une vie terrestre plus agréable. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.